Nous le reprendrons tout à l'heure. Car, pour que tu comprennes maintenant, il faut que les faits se déroulent et que tu les vois à l'action. Tous ces acteurs, étiquetés là de simples notes qui les résument. Je vais appeler les dossiers, tu me les passeras un à un, et je te montrerai. Je te conterai ce que chacun contient, avant de le mettre là-haut, sur la planche. Je ne suivrai pas l'ordre alphabétique, mais l'ordre même des faits. Il y a longtemps que je veux établir ce classement. Allons, cherche les noms sur les chemises. Tante Did, d'abord. À ce moment, un coin de l'orage qui incendiait l'horizon prit en écharpe la souleillade, creva sur la maison en une pluie diluvienne. Mais ils ne fermèrent même pas la fenêtre. Ils n'entendaient ni les éclats de la foudre, ni le roulement continu de ce déluge battant la toiture. Elle lui avait passé le dossier qui portait le nom de Tante Did en grosses lettres. Et il en tirait des papiers de toutes sortes, d'anciennes notes prises par lui, qu'il se mit à lire. « Donne-moi Pierre Rougon. Donne-moi Ursule Macquart. Donne-moi Antoine Macquart. » Muette, elle obéissait toujours, le cœur serré d'une angoisse à tout ce qu'elle entendait. Et les dossiers défilaient, étalaient leurs documents, retournaient s'empiler dans l'armoire. C'était d'abord les origines. Adélaïde Fouque, la grande fille détraquée, la légion nerveuse première, donnant naissance à la branche légitime, Pierre Rougon, et aux deux branches bâtardes, Ursule et Antoine Macquart. Toute cette tragédie bourgeoise et sanglante dans le cadre du coup d'État de décembre 1851. Les Rougon, Pierre et Félicité, sauvant l'ordre à Plassans, éclaboussant du sang du Silvère leur fortune commençante, tandis qu'Adélaïde vieillie, la misérable tante Dide, était enfermée aux Tulettes, comme une figure spectrale de l'expiation et de l'attente. Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée. L'appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rougon, le grand homme, l'aigle de la famille, dédaigneux, dégagé des vulgaires intérêts, aimant la force pour la force, conquérant Paris en vieille botte avec les aventuriers du prochain empire, passant de la présidence du Conseil d'État à un portefeuille de ministre, fait par sa bande toute une clientèle affamée qui le portait et le rongeait. Battu un instant par une femme, la belle Clorinde, dont il avait eu l'imbécile désir. Mais si vraiment fort, brûlé d'un tel besoin d'être le maître, qu'il reconquérait le pouvoir grâce à un démenti de sa vie entière, en marche pour sa royauté triomphante de vice-empereur. Chez Aristide Saccard, l'appétit se ruait aux basses jouissances, à l'argent, à la femme, au luxe, une faim dévorante qu'il avait jetée sur le pavé dès le début de la curée chaude, dans le coup de vent de la spéculation à outrance soufflant sur la ville, la trouant de tous côtés et la reconstruisant, des fortunes insolentes bâties en 6 mois, mangées et rebâties, une soûlerie de l'or dont l'ivresse croissante l'emportait, lui faisait, le corps de sa femme Angèle à peine froid, vendre son nom pour avoir les premiers 100 000 francs indispensables en épousant René, puis l'amener plus tard, au moment d'une crise pécuniaire, à tolérer l'inceste, à fermer les yeux sur les amours de son fils Maxime et de sa seconde femme, dans l'éclat flamboyant de Paris en fête. Et c'était Saccard encore, à quelques années de là, qui mettait en branle l'énorme pressoir à millions de la Banque universelle. Saccard, jamais vaincu, Saccard grandi, haussé jusqu'à l'intelligence et à la bravoure de grands financiers, comprenant le rôle farouche et civilisateur de l'argent, livrant, gagnant et perdant des batailles en bourse, comme Napoléon à Austerlitz et à Waterloo, engloutissant sous le désastre un monde de gens pitoyables, lâchant à l'inconnu du crime son fils naturel Victor, disparu, en fuite par les nuits noires, et lui-même sous la protection impassible de l'injuste nature, aimé de l'adorable Madame Caroline, sans doute en récompense de son exécrable vie. Là, un grand lys immaculé poussait dans ce terreau. Sidonie Rougon, la complaisante de son frère Saccar, l'entremetteuse aux cent métiers louches, enfantait d'un inconnu la pure et divine Angélique, la petite brodeuse aux doigts de fée qui tissait alors des chasubles le rêve de son prince charmant, si envolée parmi ses compagnes les saintes, si peu faite pour la dure réalité, qu'elle obtenait la grâce de mourir d'amour le jour de son mariage, sous le premier baiser de Félicien de Hautecoeur, dans le branle des cloches, sonnant la gloire de ses noces royales. Le nœud des deux branches se faisait alors. La légitime et la bâtarde, Marthe Rougon épousait son cousin François Mouret. Un paisible ménage lentement désuni, aboutissant aux pires catastrophes. Une douce et triste femme prise, utilisée, broyée dans la vaste machine de guerre dressée pour la conquête d'une ville. Et ses trois enfants lui étaient comme arrachés, et elle laissait jusqu'à son cœur sous la rude poigne de l'abbé Faujas. Et les Rougon sauvaient une seconde fois Plassans, pendant qu'elle agonisait à la lueur de l'incendie où son mari, fou de rage amassée et de vengeance, flambait avec le prêtre. Des trois enfants, Octave Mouret était le conquérant audacieux. L'esprit net, résolu à demander aux femmes la royauté de Paris. Tombé en pleine bourgeoisie gâtée, faisant là une terrible éducation sentimentale, passant du refus fantasque de l'une au molle abandon de l'autre, goûtant jusqu'à la boue les désagréments de l'adultère, resté heureusement actif, travailleur et batailleur, peu à peu dégagé, grandi quand même, hors de la basse cuisine de ce monde pourri dont on entendait le craquement. Et Octave Mouret, victorieux, révolutionnait le haut commerce, tuait les petites boutiques prudentes de l'ancien négoce, plantait au milieu de Paris enfiévré le colossal palais de la Tentation, éclatant de lustre, débordant de velours, de soie et de dentelle, gagnait une fortune de roi à exploiter la femme, vivait dans le mépris souriant de la